Morning Edition from NPR News.
France Inter. Le 18/20.
Et ce soir, nous allons entre l'Algérie et la France, après cette commémoration du 17 octobre, jugée comme un pas en avant, mais qui laisse aussi un goût amer, les mots qui ont été prononcés, ceux qui n'ont pas été prononcés dans un contexte franco-algérien très compliqué. En ce moment, c'est aussi là-dessus qu'on essaiera d'insister ensemble, d'autant qu'il y a d'autres dates à venir, et notamment celle du 19 mars 1962. On y vient dans un instant, donc avec notre invité. Le bruit du monde, ce soir, est en Colombie. Vous suivrez le travail des juges là-bas, alors que les affaires se multiplient, notamment autour des narcotrafics et même au-delà. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logeni a trouvé des Rohingyas au Bangladesh, un monument controversé en Belgique et un sorcier en Nouvelle-Zélande. 18h50, le monde selon Biden et ce que l'on dit de Colin Powell sur les télévisions en ce moment même. On parlera aussi de NBA et de l'adresse de Joe Biden aux policiers. 18h55, le monde d'après de Franck Madvon et l'histoire de ce Vénézuélien et son extradition vers les États-Unis qui ne fait pas les affaires de Nicolas Maduro. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pierre Vermeeren.
Bonsoir Fabienne Saint-Esse.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, spécialiste du Maghreb notamment. Que nos rapports avec l'Algérie, monsieur Vermeeren, soient compliqués en ce moment, ça n'a échappé à personne. Cette séquence du 17 octobre, elle fait suite à d'autres choses. Il y a eu des propos très raides du président qui a qualifié le régime de système politico-militaire fatigué, qui a parlé de la rente mémorielle sur laquelle s'est construit ce pays, qui a réduit le nombre de visas, provoqué une vraie tension diplomatique. Il y a aussi eu le pardon aux harkis, qui ne plaît pas forcément aux Algériens, mais il y a eu cette date-là. On a l'impression vraiment qu'on marche sur plusieurs jambes à la fois dans cette relation-là, non ? Et qu'on souffle un coup le chaud, un coup le froid, d'un côté comme de l'autre, en fait.
Oui, j'ai envie de dire deux choses générales, pour commencer, en disant qu'on oublie toujours que la guerre d'Algérie a été une guerre civile à entrées multiples, puisque, qu'on le veuille ou non, l'Algérie était intégrée au territoire français depuis la Deuxième République, et que donc, en soi, c'est à la différence de la guerre d'Indochine, elle fut une guerre civile, et que cette guerre civile, elle s'est démultipliée à l'intérieur de la société algérienne, et elle a existé aussi, et elle existe toujours, on le voit, en tout cas les séquelles, à l'intérieur de la société française. Et c'est là que le deuxième chose est à souligner, c'est que c'est l'intrusion du politique. En fait, on a vu le président de la République demander aux historiens et à Benjamin Stora d'écrire l'histoire de la guerre d'Algérie. Et en fait, on se rend compte que le politique, alors en Algérie n'en parlons pas, mais ici aussi, le politique veut intervenir dans l'écriture, le jugement, le bilan, le commentaire de ces événements et le mélange avec... Il y a des interférences constantes entre l'histoire, qui est aujourd'hui ancienne, puisqu'elle a plus de 60 ans, presque, et le présent et les défis d'aujourd'hui. Alors le mélange de tout ça, des guerres civiles, de l'histoire, de la politique, de la situation internationale actuelle, terrible, après le Irak, le Covid, et d'une guerre civile qui n'a jamais dit son nom, mais qui en était bel et bien une, à entrée multiple, ça donne la situation actuelle.
Mais est-ce que vous diriez que l'enjeu politique est plus fort que la vérité historique en ce moment, et que c'est en partie ce qu'on a vu pendant les commémorations de ce week-end ?
Non, je pense qu'il faut que les historiens travaillent, comme il est souvent réclamé, et que par ailleurs, les historiens ne sont ni des juges, ni des procureurs, ils essayent de faire leur travail honnêtement. Après ça, il y a des militants politiques, il y a des autorités politiques, il y a des opposants, il y a des partisans, eux, ils ont le discours qu'ils veulent, mais à partir du moment où on mélange les rôles, ça donne la situation actuelle dont vous vous dépeignez assez bien en introduction, qui est incompréhensible, ou en tout cas très contradictoire, puisque un jour il y a un pardon, et le lendemain il y a une accusation de crime. C'est assez illisible, mais en même temps, forcément, parce que, si vous voulez, le discours des historiens, c'est un discours, c'est pas un discours de vérité, c'est un discours qui prétend à la vérité, à une certaine... Nous, on n'est pas des juges, et puis le discours politique, par définition, c'est un discours qui a des intérêts à court terme, c'est un discours idéologique, et le mélange des deux, c'est généralement assez explosif.
Mais alors, justement, là-dessus, puisqu'Emmanuel Macron avait dit, on s'en souvient, pendant sa campagne, il avait parlé de crimes contre l'humanité, ce qui était au sujet de la colonisation, qui étaient des mots extrêmement forts, on a un peu le sentiment que parler de crime d'État, au fond, pour le 17 octobre, c'est tellement moins fort que ça. Donc s'il n'y va pas, est-ce que c'est une manière de dire à l'Algérie, attendez, c'est bon, dans le contexte, on en a fait suffisamment, à vous de faire un pas en avant, honnêtement, s'il n'y va pas, ou est-ce que c'est à nous qui parle, à l'intérieur, ou encore une fois, vous allez me dire, il y a tout ce mélange.
Bah oui, c'est difficile de tirer les fils de cette pelote, parce qu'elle est entrée multiple, là encore. Il y a effectivement, qu'on le veuille ou non, on est en campagne, on est en période préélectorale. Donc, on se rappelle qu'il y a 10 ans, la campagne de François Hollande avait débuté par un discours déjà au pont de Beson, si ma mémoire est bonne, pour commémorer ces événements. Donc là, je dirais, on a une séquence similaire. Et en même temps, bien sûr, on a une crise diplomatique sur les bras avec l'Algérie, et une crise politique, hein, parce que ça va au-delà du diplomatique. Et donc, à qui parle-t-on? J'avoue que moi-même, je ne sais pas, mais peut-être aux deux à la fois, et c'est ce qui rend les choses très dures.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a fermé une porte aujourd'hui, hier quand même, ou est-ce qu'au contraire, on se retrouve devant un trou qui est finalement plus béant qu'il ne l'était avant?
On ferme jamais une porte avec l'Algérie, comme on l'a vu. Si vous voulez, il faut repartir de la demande du rapport Stora. Au départ, c'est pas un rapport Stora, c'est un rapport d'historiens français et algériens qui doivent travailler.
Chacun de
et
son
rendre...
côté.
Chacun de son côté et ensemble, et qui doit faire des préconisations pour la réconciliation entre les deux pays. À la fin, les Algériens ont fait... Bien sûr, ils étaient d'accord au départ, notamment les présidents, le président Tebboune, mais à la fin, on a une fin de non-recevoir, puisque la personne chargée du côté algérien de faire ce rapport ne le fait pas. Et donc Benjamin Stora rend un rapport au président de la République à préconisation et à usage de la présidence française et donc de la France. Et évidemment, les Algériens commentent. Mais en réalité, voyez, donc on est passé du bilatéral à l'unilatéral, et un unilatéral dans lequel l'autre partie intervient. Donc oui, il y a une forme d'illisibilité, et c'est toujours le problème quand on parle de l'Algérie, c'est qu'on parle à la fois à un pays parce que on est dans un héritage encore une fois d'une histoire très compliquée, très polémique, très politique et de guerre civile. Et en même temps, on parle à un partenaire international avec qui on a des intérêts, et des intérêts qui ne sont pas des intérêts ni seulement économiques et théoriques, mais des intérêts très complexes, notamment liés à la question migratoire, évidemment.
Mais alors, justement, et on va y venir d'ailleurs, à la question migratoire, mais si l'Algérie, ce week-end, ne dit rien ou pas grand-chose, en fait, si on n'entend rien, est-ce que c'est une manière de dire non mais on s'en fiche, en fait, de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on est dans la séquence où, de toute façon, on est vraiment un couteau tiré diplomatiquement, ou est-ce que c'est une manière de ne pas mettre de l'eau sur le feu là aussi, comment on lit le silence?
Il n'y a pas de silence. Il y a de silence peut-être de la part du président Tebboune, parce que ce n'est pas à son niveau que ça se traite. Mais en tout cas, si vous écoutez les déclarations d'un certain nombre d'hommes politiques, de ministres ce week-end, et que vous regardez les éditoriaux de la presse ce matin, je ne dirais pas que c'est sanglant, mais c'est méprisant en tout cas. Et ça dit, au fond, tout ça, ce n'est pas grand-chose. Il n'emploie pas le mot de vague, mais ce que c'est ce que ça veut dire. Donc bien sûr que, et puis en plus voilà, c'est tout ça, on a un président en fin de mandat, on ne sait pas s'il s'adresse aux Algériens, à l'Algérie ou à ses électeurs, enfin voilà. Donc non, il y a beaucoup d'interprétations de ce qui a été fait dimanche et samedi, bien sûr, puisque le discours, enfin le communiqué a été donné un jour d'avance, si je puis dire, 16, mais non, il n'y a pas silence, mais en revanche c'est assez glaçant du point de vue de ce qui est dit.
Qu'est-ce que ça nous dit, on va pas faire de politique fiction, mais qu'est-ce que ça nous dit de la prochaine étape, qui va être une très grosse étape pour deux raisons. D'abord parce qu'on parle du 19 mars 1962, Dieu sait que c'est une date, et qu'on sera en plus genre à un mois seulement de nos élections à nous. Qu'est-ce que ça nous dit de ça? Qu'est-ce que ça nous dit de ce que l'Algérie attend de cette date, et de comment ça se danse en quelque sorte, Pierre Vermeeren?
Vous regardez le très bel article du Point, je sais pas si j'ai le droit de le citer, mais c'est fait, de Saïd Maran la semaine dernière ou cette semaine, qui montrait à quel point une partie importante, il n'en cite que quelques-uns, du personnel politique et intellectuel ou journalistique français est marqué au fer rouge par cette histoire. À la tête de tous les partis politiques, vous avez des chefs, vous avez des députés, vous avez des ministres qui sont les héritiers finalement, qui sont les enfants des générations qui ont vécu la guerre d'Algérie dans les deux camps. Et c'est souvent les camps, les familles les plus meurtries, les plus choquées, les plus traumatisés, qui ont finalement transmis cette verve politique et cet héritage traumatique à leurs enfants. Et ces enfants, aujourd'hui, 60 ans après, animent le débat public tous les jours. C'est pas la peine de donner des noms, mais on les connaît tous. Et du coup, on vit effectivement effectivement dans une ambiance qui n'est pas une ambiance de guerre civile, mais qui s'apparente à des éléments de guerre civile. Et donc, moi, enfin, il y a évidemment pas de préconisation à faire parce que l'histoire se déroule toute seule, mais il faudrait peut-être que sur l'histoire, en tout cas, on laisse les historiens travailler. Moi-même, je ne suis pas spécialiste, vous voyez, de ces événements du 17 octobre, donc je me garderai bien de faire des commentaires. Mais enfin, il y a quand même des historiens très sérieux qui ont travaillé sur cette question. J'ai vu l'interview dans le Figaro aujourd'hui de Brunet qui a donné des chiffres, une fourchette. Bon, j'ai vu que des chiffres bien plus importants circulent. Voilà, les historiens travaillent. Ils ont énormément travaillé. Ils sont très nombreux à travailler sur la guerre d'Algérie et sur cette période, au moins en France. En Algérie, c'est plus difficile parce qu'il y a une histoire officielle, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup d'historiens algériens qui travaillent aussi. Voilà, parce que si on ne déconnecte pas ce travail historique de la mémoire, qu'elle soit officielle ou qu'elle soit manipulée par le personnel politique, on va aller vers ça va monter d'un cran, ça peut aller loin, et c'est vrai que c'est assez dangereux, c'est assez déplaisant, et en plus c'est complètement déconnecté pour la plupart des intérêts immédiats à la fois du peuple français et aussi des relations internationales et diplomatiques.
Quand vous dites ça peut aller loin, vous parlez de notre côté de la Méditerranée ou du leur?
Non, des deux côtés, enfin. Vous avez vu que l'Algérie a rompu récemment ses relations avec le Maroc. Bon, alors évidemment, il s'agit c'est tout autre chose.
On se demande pourquoi nous avons ce genre de rapport, nous, avec Rabat et par rapport à eux. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ça a tout à voir.
Et d'ailleurs, c'est bien perçu comme tel. Et puis, même en France, je veux dire, on est sur des degrés de tension et d'invectives qui, dans un contexte d'élection présidentielle survoltée, n'est pas quelque chose de très sain. D'autant plus qu'on va commémorer des événements très douloureux. Il y a des controverses terribles autour du 19 mars, vous l'avez dit. Ne parlons pas de ce qui va arriver en juillet avec les massacres d'Oran, la question des harkis, etc. Donc, ça peut durer encore comme ça longtemps, et c'est d'autant plus étonnant que la plupart des acteurs sont morts. Donc, encore une fois, on est les héritiers. On est à la deuxième génération des commentateurs et des héritiers de cette histoire.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'on entretient aussi cette brouille, enfin, je vais l'appeler comme ça, mais ce désamour en ce moment à la tête de l'État en Algérie, alors même que le président Tebboune, effectivement, n'a pas la légitimité révolutionnaire que pouvaient avoir ses prédécesseurs, alors même qu'il a affaire à une population aujourd'hui qui est extrêmement en colère contre lui, qui sort d'un Covid épouvantable, qui, juste avant le Covid, était en proie à des manifestations qui étaient aussi des manifestations importantes. Donc, quel est l'intérêt qu'il a, lui, à souffler sur ces braises-là pour se redonner une légitimité, une vraie légitimité, j'allais dire, patriote et nationaliste?
Alors, ça, c'est une interprétation à laquelle j'adhère assez, mais il faut aller encore plus loin. Il faut remonter à l'intervention française en Libye en 2011, dont on a déjà parlé ici ensemble, mais qui a été très traumatisante pour les Algériens, parce qu'ils y ont vu un retour de la politique de la canonnière, et succédé quelques mois après ou de l'intervention française au Mali, vous voyez, donc sur deux frontières de ce très grand pays qu'est l'Algérie. On a vu que ça a rebondi récemment avec l'interdiction du survol du territoire. Donc il y a aussi une question géopolitique qui se joue dans le Sahel et en Méditerranée, avec des interventions de plus en plus brutales et présentes de la Chine et surtout des Russes et des Turcs, hein, notamment en Libye, le long de la frontière algérienne, il y a des déploiements de forces turques qui sont là depuis plusieurs mois. Donc si vous voulez, pour le pouvoir algérien, il y a une question géopolitique, il y a une question économique, il y a une question de politique intérieure, et effectivement cette relation avec la France qui est un vieil héritage qui a souvent servi de bouc émissaire, le chaud et le froid, ça fait 60 ans que ça dure entre l'Algérie, avec des grandes périodes d'amour et puis des grandes périodes de désamour, voire d'extrême tension un peu haineuse. Voilà, donc là on est plutôt dans le bas de la vague, ça peut changer, mais c'est vrai que venir mélanger ces considérations très actuelles, très présentes, très importantes, parce que le destin de l'Algérie, il intéresse les Algériens, il intéresse tout aussi la France et les Européens, c'est une question fondamentale, c'est un pays qui a une très forte démographie, qui est au cœur de la Méditerranée, qui est une base de stabilisation de toute la région et du Maghreb, et mélanger ça, interférer ça avec le travail des historiens et les questions mémorielles qui saignent encore, comme disait Stora, c'est quand même jouer un peu avec des allumettes et surtout disperser notre attention et nos efforts, et ça ne règle rien de surcroît.
Pierre Vermeeren, vous l'avez à peine évoqué, mais vous l'avez prononcé, le mot de la question migratoire. Est-ce que l'aspect migratoire entre aussi dans cette querelle? Je vous pose la question parce que, encore une fois, choix. Chez nous, les élections approchent aussi, et peut-être que Macron n'est pas le meilleur ennemi de l'Algérie sur ces questions-là, quand on voit ce qui se passe, y compris chez nous en France, avec les candidats ou non-candidats.
Alors sur cette question, l'actualité récente, c'était la division des visas par deux, mais en même temps, ils avaient été divisés par 10 du fait du Covid. Donc divisé par 10 puis par deux, ça aboutit à pas grand-chose. Il y a aussi une intervention très étonnante d'Alger, hein, qui a été l'appel d'un ministre aux enfants de l'immigration. Et là, il y a un vrai débat entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire que il y a cette question en France de, alors est-ce que c'est intégration, assimilation, ça c'est le débat franco-français. Mais le fait que les Algériens nés de parents algériens en France deviennent des citoyens français, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Sauf que le problème, c'est qu'à Alger, cette conception ne prédomine pas, puisqu'au contraire, la binationalité ou en tout cas la nationalité algérienne de ces Français originaires d'Algérie est considérée comme quelque chose d'évident. Et là, il y a une vraie question qui n'est, alors c'est pas la peine de la rajouter à la campagne présidentielle, mais elle est au cœur, au fond, de ce débat, avec d'un côté un État qui appelle à ces millions de ressortissants en France à interagir avec l'Algérie et puis évidemment ces citoyens qui vont voter dans la présidentielle française. Très complexe.
Oui, il m'est avis que vous allez revenir peut-être avant le 19 mars même et ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite d'Un jour dans le monde ce soir, c'est le bruit du monde en Colombie où les juges ne savent plus où donner de la tête, ont du mal à ne pas être la cible aussi de toutes les critiques des habitants. Le bruit du monde, la suite, c'est vous Sébastien Logeni sous les radars.
L'ONU s'inquiète du sort réservé aux réfugiés Rohingyas dans une île qui ressemble de plus en plus à une prison.
Le monde selon Joe Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, du respect, même des larmes sur toutes les télés américaines, malgré la fameuse fiole d'anthrax de Colin Powell.
Le monde d'après, c'est vous Franck Madvon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, on ira au Venezuela, l'extradition vers les États-Unis d'un homme d'affaires colombien fait trembler le régime Maduro.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète passe aussi par la playlist de France Inter et Gabriel Blame. À tout de suite.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when I knew can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be.
Le bruit du monde ce soir est en Colombie où les affaires se multiplient liées au narcotrafic, mais pas seulement, les affaires se multiplient, mais pas les moyens humains ni matériels, si bien que les juges se retrouvent en première ligne. L'opinion publique les trouve le plus souvent trop faibles ou corrompus, eux se débattent, il faut bien le dire, et vous allez le constater, en allant à Andes, et le reste, c'est Najed Benrabah qui raconte.
La ville d'Andes se trouve à environ 3h30 de route de Medellín. Dans cette zone rurale, les juges de proximité sont sollicités en permanence pour des affaires liées au narcotrafic, aux agressions et aux violences intrafamiliales.
Nous terminons donc l'intervention des parties. Il est noté que le procureur a présenté l'ensemble des éléments qui ont nécessité cette audience et que l'ensemble des 7 archives ont été envoyées de manière numérique à mon mail pour justifier cette audience.
Les affaires s'accumulent. Au tribunal, les audiences sont déjà programmées jusqu'au mois d'avril 2022. À 32 ans, Manuela Quintero enchaîne les audiences, physiques, virtuelles et sur le terrain. Son quotidien est rude, surcharge de travail, manque de moyens, pression, stress et augmentation des affaires sensibles et difficiles.
On devrait avoir une salle d'audience par juge et c'est d'autant plus important pour nous car nous recevons des détenus. Donc en théorie, on devrait avoir 2 salles d'audience à disposition des juges de proximité. Nous n'en avons qu'une seule et elle appartient au juge spécialisé en droit pénal. Il ne peut pas la prêter. Si on compare notre bureau à d'autres, on n'est pas trop mal, mais ça a été une lutte de longue haleine. Mon collègue du pénal et moi, nous nous sommes battus l'an dernier, car depuis le début de la pandémie, on n'avait pas de connexion Internet, elle n'était pas stable. On s'est battu plus ou moins 7 mois avec la direction de l'appareil judiciaire, en leur disant qu'on ne pouvait pas travailler sans matériel de base. Durant ces mois-là, on payait nous-mêmes notre connexion Internet et on utilisait notre matériel personnel. Les ordinateurs ici étaient vieux de plus de 10 ans et donc inutiles. On a finalement obtenu leur remplacement, même pour du papier ou de l'encre, on se bat. On fait des demandes et rien n'est livré, même s'il y a des services de transport. Du coup, pour mon bureau, on fait des commandes à Medellín et je m'organise pour aller récupérer la marchandise dans mon propre véhicule personnel, car si on attend, ça n'arrive jamais.
Son collègue, le juge Carlos Enrique Restrepo Zapata, a 61 ans et plus de 30 ans de carrière. Il occupe un bureau qui fait aussi office de salle d'audience. Faute de moyens, des tables et des micros ont été installés pour tenter de réduire les piles de dossiers en attente.
Nous nous occupons d'affaires concernant des groupes liés au cartel de la drogue. Ici, on parle du bureau d'Envigado ou du clan du Golfe. Ce sont des organisations criminelles et nous sommes sans défense. Car à n'importe quel moment, ces groupes peuvent décider de nous attaquer. Dans ma carrière, j'ai été une fois menacé pour avoir fait mon travail de juge. Et c'était dans la ville de Jardín pour une audience de tutelle. Je n'ai pas reçu de pression ou menace assez forte pour m'empêcher de faire mon métier, mais c'est là, omniprésent. Dans notre région du Sud-Ouest, 90% des affaires sont liées au narcotrafic. Ensuite viennent celles concernant les violences intrafamiliales et les agressions sexuelles. Le travail ne cesse de se multiplier, alors que les ressources humaines et matérielles restent les mêmes.
Andes compte près de 42 000 habitants et se trouve à 1300 mètres d'altitude dans une région de production de café près des reliefs de la cordillère des Andes. Sa position géographique est stratégique pour la commercialisation des drogues. Julian David Restrepo Munera, avocat et chef de contrôle interne à la mairie d'Andes.
La Colombie a toujours vécu d'une économie très liée au trafic de drogue dans les régions éloignées des zones urbaines. L'État a du mal à se rendre dans ces zones et à installer des programmes sociaux qui permettraient de lutter contre ce trafic en sortant les habitants de leurs problèmes. Cette situation laisse le champ libre aux groupes de narcotrafiquants. Ils en profitent pour renforcer leur réseau et leur trafic, car le narcotrafic devient l'outil de contrôle de ces populations vulnérables. De plus, depuis les accords de paix, ces groupes se sont renforcés. Ils se sont divisés en plusieurs petits groupes, ce qui rend la lutte du gouvernement contre le narcotrafic plus complexe. Ils sont maintenant plus nombreux et ils sont étalés sur l'ensemble du pays.
Pour le moment, chaque juge d'Andes a présidé plus de 200 audiences civiles et ou pénales. La Colombie étant le premier producteur mondial de cocaïne, la quantité de travail des juges ne va pas diminuer.
Najet Benrabah pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à très très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars, et c'est Sébastien Legénie. C'est au Bangladesh que nous sommes, Sébastien, où la situation des réfugiés Rohingyas sème le trouble aux Nations Unies.
Oui, cette situation n'est pas nouvelle, Fabienne. Les réfugiés Rohingyas ont fui la Birmanie et les persécutions il y a déjà 5 ans. Ils sont près d'1 million à vivre dans des camps au Bangladesh, dans des conditions misérables. Mais depuis quelques mois, l'ONU et son agence pour les réfugiés, le HCR, associée donc à la gestion de cette crise migratoire, sont de plus en plus mal à l'aise avec un camp en particulier, très controversé, le camp de Bashan Char, du nom de l'île sur laquelle il a été construit, au large des côtes du Bangladesh, une île battue par les cyclones où sont actuellement réfugiés 20 000 Rohingyas. Il s'agit officiellement d'y créer de meilleures conditions d'hygiène, de vie, avec des logements en dur, sauf qu'il semble que des milliers de Rohingyas y aient été emmenés contre leur volonté, sans possibilité d'en partir. Bashan Char, qui tient donc plus du camp de détention que du camp de réfugiés. On entend là des témoignages recueillis par nos confrères de l'AFP, cette femme qui par exemple affirme qu'ils ont forcé son fils à partir. Il ne voulait pas y aller, mais ils l'ont forcé. Une autre refuse d'y aller car dans cette île, dit-elle, sa famille va mourir à cause des cyclones. Et puis un autre, enfin un jeune garçon, affirme qu'ils ont battu son frère, qu'ils l'ont forcé et menacé de le tuer. Au total, on estime que 700 personnes ont déjà tenté de fuir l'île de Bashan Char, parfois à la nage, au péril de leur vie. Et si l'ONU se pose des questions, c'est que le Bangladesh entend faire venir encore 80 000 personnes dans les 3 mois. Un protocole d'accord avec le HCR a été signé le week-end dernier, mais il est totalement secret. On ne sait pas si les Rohingyas pourront quitter ou non librement ce qui ressemble de plus en plus à une île prison.
En Belgique, Sébastien, un monument à la gloire de soldats nazis fait polémique.
Hein. Ouais, les voix se multiplient pour demander le démantèlement d'un étrange monument érigé en 2018 dans l'indifférence générale par la municipalité de Zedelgem, près de Bruges, en pleine région flamande. C'est une œuvre baptisée la Ruche Lettonne, érigée à la mémoire de soldats de Lettonie qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'étaient autres que des SS. Ces soldats disent avoir été enrôlés de force par le Troisième Reich en 1941, à l'époque où Hitler envahit la Lettonie. La mairie de Zedelgem y voit donc des combattants de la liberté, ni plus ni moins, sauf que la version des anciens résistants, des organisations juives, des historiens et tout autre, ces soldats avaient le choix de refuser d'être enrôlés. Ils étaient donc membres de fait de la Waffen-SS, l'armée raciale et politique créée par Himmler. Depuis plusieurs mois, la pression est de plus en plus forte sur la municipalité de Zedelgem pour retirer ce monument controversé. On l'entend ici, un élu flamand d'extrême gauche s'en prendre à la mairie et aux élus du Vlaams Belang, ce parti belge xénophobe qui lui défend au contraire cette œuvre polémique. La mairie de Zedelgem, pour le moment, botte en touche, a décidé de réunir un comité d'experts internationaux. Les autorités centrales et régionales belges, elles, refusent tout simplement de rentrer dans le débat, laissant les élus locaux se débrouiller avec l'histoire.
Et puis, la Nouvelle-Zélande n'a plus de sorciers.
Oui, vous avez peut-être vu passer cette information ce week-end. La ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, s'est séparée de son sorcier, obligée de quitter ses fonctions par le conseil municipal. Car oui, elle est là, la vraie info, c'est que la ville de Christchurch s'était attachée les services d'un sorcier officiel. Et Ian Brackenbury Channel, ancien navigateur de la Royal Air Force, est diplômé en psychologie et sociologie, payé par le contribuable près de 10 000 euros par an pour arpenter les rues avec sa robe noire, sa longue barbe et son chapeau pointu façon Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. On entend ici le sorcier au téléphone expliquer son rôle, jeter des sorts lors des grands matchs de rugby, implorer la pluie ou protéger l'âme de la ville. Une image sympathique mais un peu vieillotte, ont estimé les conseillers municipaux. Après 15 ans de bons et loyaux services, les conseillers municipaux qui préfèrent désormais parier sur les valeurs de dynamisme et de modernité, le sorcier lui est furieux de son licenciement. C'est une bande de bureaucrates qui n'ont aucune imagination, a-t-il lancé le doigt tendu vers le ciel. Sa vengeance sera terrible.
Oui, ben ne vous moquez pas, Sébastien, parce qu'on ne sait jamais.
On sait jamais.
Voilà. Revenez demain quand même. Vous partez avec Alina Diane de Pirates Gospel, c'est sur France Inter. No. Alina Diane et le gospel du pirate sur France Inter. Allez, direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde.
L'Amérique de Joe Biden et Sébastien Power. Comme chaque lundi, Sébastien, on va commencer forcément avec Colin Powell, dont vous allez reparler tout à l'heure dans le journal de 19h. Mais donnez-nous juste une idée de forme en attendant. À quoi ça ressemble la mort de Colin Powell sur les télés américaines? Apparemment, c'est l'un des soldats les plus éminents que pleure le pays.
Oui, les bandeaux Breaking News sont partout, sur toutes les chaînes de télé. Les journaux retracent son parcours ou rediffusent des entretiens avec lui. Les militaires qui l'ont côtoyé, les journalistes qui l'ont interviewé se succèdent évidemment sur les plateaux pour raconter leurs souvenirs. Souvent avec émotion, d'ailleurs, il y a beaucoup de respect pour cet homme et toujours avec le même bémol dont on reparlera tout à l'heure dans le journal d'Hélène Philly. Cette fameuse fiole supposée contenir de l'anthrax qu'il présente à l'ONU en 2003 et qui lui colle encore aux bottes presque 20 ans après.
Et on entendra d'ailleurs ce moment tout à l'heure. Alors la mort d'un soldat, Sébastien, hommage aussi aux policiers.
Ça, c'était samedi, c'était devant le Capitole des États-Unis ici à Washington, hommage annuel aux forces de l'ordre morts en service, 491 morts en 2019 et 2020. Joe Biden a souvent assisté à cette cérémonie, notamment comme sénateur. Il y a prononcé un discours samedi et il a félicité la police pour son rôle le 6 janvier.
Ici, il y a 9 mois, vos frères et sœurs ont déjoué une attaque anticonstitutionnelle et fondamentalement anti-américaine contre les valeurs de notre nation et nos votes. Grâce à vous, la démocratie a survécu, mais seulement grâce à ces femmes et ces hommes qui, encore une fois, ont littéralement mis leur vie en jeu pour protéger notre démocratie.
Plusieurs anciens de l'administration Trump sont appelés à témoigner sur l'invasion du Capitole, justement, devant la commission du Congrès ces jours-ci.
Et sinon, la NBA reprend demain.
Ah, 12 Français sur les parquets, dont certains candidats au titre avec leurs équipes, Rudy Gobert avec le Utah Jazz, ou Nicolas Batum avec les Los Angeles Clippers, évidemment, 12 Français, mais surtout un joueur qui fait parler de lui, l'une des stars des Brooklyn Nets, une des équipes en lice pour le titre, le meneur de 29 ans, Kyrie Irving, qui refuse de se faire vacciner contre le Covid. Il est donc écarté par sa franchise, tant qu'il ne changera pas d'avis. Il ne devrait pas jouer demain contre Milwaukee. Irving met en avant sa liberté, mais il a tort et c'est une référence du basket qui lui fait passer le message. Kareem Abdul-Jabbar, 6 titres NBA, 6 titres de meilleur joueur. Il était hier sur CNN.
Je peux comprendre qu'il veuille faire ce qui est bon pour lui. Mais ce qui est bon pour lui peut mettre en danger d'autres personnes, ses coéquipiers, leur famille et les autres personnes qui travaillent dans l'organisation des Nets. S'il doit être là non vacciné, il représente un risque. Donc il n'est pas un bon coéquipier. Et il doit le comprendre.
Alors pour l'instant, Irving reste à l'écart. Il va perdre un peu plus de $380,000 par match manqué tout de même. Mais il dit qu'il préfère sa liberté. Il n'est pas le seul non vacciné en NBA. Ils sont 4% des joueurs. Irving est le plus célèbre évidemment maintenant que la star des Lakers, LeBron James, s'est finalement fait piquer. Mais Arculon est sans appeler lui à la vaccination.
Allez Sébastien, on termine avec les grands espaces qui n'ont pas l'air de plaire à Kanye West.
En tout cas, le rappeur vient de mettre en vente son ranch du Wyoming, alors qu'il l'a acheté il y a à peine 2 ans et qu'il avait promis d'y installer une usine de son entreprise Yeezy, d'ouvrir un magasin aussi dans le village, dans la ville. Alors si ça vous dit, c'est le Monster Lake Ranch. Mm-hmm. Il s'étale sur presque 16 kilomètres carrés de terre. Autant dire qu'il y a de la place. C'est à Cody, c'est la ville de Buffalo Bill. Ça vaut le détour, 10 000 habitants. On ne l'a pas vu là-bas depuis presque 1 an. Le maire est un peu amer, mais il dit qu'il ne l'a pas eu au téléphone depuis plus de 8 mois et qu'il s'en remettra. Le ranch est affiché à $11 millions.
Bah, 11 millions, qu'est-ce donc, hein? Allez, Sébastien, en direct de Washington, à tout à l'heure à 19h. Sébastien, et pour nous, à lundi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Franck Madvon. Ce soir, Franck, un homme d'affaires colombien doit être présenté aujourd'hui à la justice américaine en Floride. Il s'appelle Alex Saab. Il a été extradé ce week-end par le Cap-Vert. Il est accusé d'avoir piloté un vaste réseau de détournement de fonds au Venezuela. Une affaire qui fait trembler le régime vénézuélien. Cet homme connaît beaucoup, beaucoup de secrets du président Maduro et c'est votre Monde d'après.
Oui, Alex Saab a été arrêté l'an dernier au Cap-Vert. Il était en route pour l'Iran, mais son jet privé a dû faire escale sur l'archipel pour refaire le plein. L'homme d'affaires colombien faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Il avait été inculpé en 2019 en Floride pour blanchiment d'argent. Il est soupçonné d'avoir détourné 350 millions de dollars du Venezuela vers des comptes à l'étranger, notamment aux États-Unis. L'affaire provoque la colère du pouvoir vénézuélien. Le président Nicolas Maduro parle d'un enlèvement, d'une des plus ignobles injustices des dernières années. Caracas a pris deux décisions en représailles à l'extradition d'Alex Saab. Un, le Venezuela a suspendu les négociations avec l'opposition, emmenée par Juan Guaido. Des discussions avaient repris il y a deux mois et un nouveau round devait commencer hier. On va y revenir. Et deux, six anciens cadres d'une filiale américaine de la société pétrolière d'État du Venezuela ont été de nouveau emprisonnés à Caracas. Ils avaient été condamnés l'an dernier à de lourdes peines pour corruption, puis finalement assignés à résidence en avril, un geste de bonne volonté à l'époque du président Maduro. Mais ces six hommes, dont cinq Américains, servent manifestement de pions, de monnaie d'échange dans l'affrontement entre le Venezuela et les États-Unis.
Mais alors, qu'est-ce qui agace tant le Venezuela dans cette affaire, Franck ?
Alors, pour le comprendre, Fabienne, il faut s'attarder un moment sur le profil d'Alex Saab. L'homme d'affaires fait partie de ces individus opportunistes que l'on retrouve dans les régimes corrompus du monde entier. Il a 49 ans, d'origine libanaise, il est né en Colombie, donc à Barranquilla, la grande ville du nord du pays. Il débarque au Venezuela au début des années 2010. Il se rapproche d'abord du régime d'Hugo Chavez, puis devient incontournable avec l'arrivée au pouvoir de Maduro en 2013. Alex Saab va notamment jouer un rôle clé dans ce qu'on appelle les CLAP. C'est un programme qui permet de fournir de la nourriture à une population vénézuélienne victime de graves pénuries alimentaires. En fait, d'après la justice américaine, les produits achetés sont surfacturés et les bénéfices blanchis. L'homme d'affaires va ainsi bâtir sa fortune sur la faim des Vénézuéliens. Et il va financer ainsi la corruption au service notamment de la famille Maduro. C'est ce que montre le site vénézuélien Armando Info, à l'origine de plusieurs révélations sur les activités douteuses de Saab. Le millionnaire colombien est protégé par le pouvoir qui lui a donné la nationalité vénézuélienne. Maduro l'aurait même promu diplomate, ce qui n'a été révélé bizarrement qu'après son arrestation au Cap-Vert. Pour Caracas, il devrait donc bénéficier de l'immunité diplomatique. En clair, Nicolas Maduro et son entourage ne veulent surtout pas qu'Alex Saab, sorte de ministre occulte, déballe tout ce qu'il sait.
Et ça veut dire que le dossier est devenu une affaire d'État.
Oui, c'est sans doute même le sujet qui préoccupe le plus les autorités aujourd'hui, peut-être plus encore que la crise économique et humanitaire que traverse le pays. L'affaire intervient, on le disait, dans un contexte de reprise des négociations entre le pouvoir vénézuélien et l'opposition. Le régime Maduro veut un allègement des sanctions occidentales, tandis que l'opposition souhaite des élections régionales libres et transparentes le mois prochain et un prochain scrutin présidentiel équitable. En septembre, à la surprise générale, Caracas avait même nommé Alex Saab membre de la délégation qui participe à ces discussions, une preuve de plus de la volonté du régime de le protéger. Des affiches appelant à la libération du Colombien ont été placardées sur les murs de Caracas. Un rassemblement a été organisé hier en présence de sa femme, mannequin Camila Fabri, elle aussi soupçonnée de malversation. Elle a lu en pleurs un message de son mari tout juste extradé. J'affronterai mon procès avec une dignité totale. Je n'ai pas à collaborer avec les États-Unis. Mais Alex Saab résistera-t-il à la pression américaine ? Le président Maduro a de quoi être inquiet. Un homme qui sait tout de sa fortune, du financement de son régime et de la corruption vénézuélienne est aujourd'hui entre les mains des États-Unis, son pire ennemi.
Le Monde d'après de Franck Madvon. Merci beaucoup, Franck. Le 18-20, première heure, c'est fini. À partir de 19h20, c'est le téléphone sonne juste avant le journal d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous.